Europe Midi, Virginie Salmen.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal.
J'ai pris beaucoup de plaisir en fait depuis Rio. Et quand je suis revenu à la natation, si je me suis un peu perdu en chemin, bah, j'ai quand même pris énormément de plaisir et ça s'est vu ce soir.
Florent Manaudou a réussi son pari. Le nageur a décroché cette nuit la médaille d'argent au JO de Tokyo en 50 mètres nage libre. Lui qui avait suspendu sa carrière de nageur pour se consacrer au handball. Bilan de ce joli week-end olympique pour les Français dès le début de ce journal. La protestation contre le pass sanitaire s'amplifie. Il y avait 40 000 personnes de plus que samedi dernier dans les rues de 180 villes de France hier. Pourtant, ces 200 000 manifestants ne représentent pas la majorité des Français qui votent avec son bras en se faisant vacciner, estime le député LREM Roland Lescure, invité d'Europe 1 ce matin. Situation sanitaire toujours dramatique en Outre-mer, particulièrement à La Réunion et en Martinique, d'où 3 malades, une femme de 51 ans et 2 hommes de 53 et 61 ans atteints de formes graves du Covid ont été transférés dans la nuit dans des hôpitaux parisiens. En Chine, la progression rapide du variant Delta inquiète les autorités. Le virus circule désormais dans 14 provinces. Nous verrons avec notre correspondant en Chine que Pékin teste en ce moment un vaccin par inhalation dont les premiers résultats semblent prometteurs. Un important incendie de forêt en Grèce, dans le nord-ouest du Péloponnèse. Une vingtaine de maisons ont brûlé. 8 personnes ont été blessées près de la ville de Patras. 5 villages ont été évacués en raison de cet important feu qui s'est déclaré hier par des températures caniculaires. Les théâtres privés d'Avignon ont tiré le rideau hier, fin du festival Off qui a pu se tenir malgré des restrictions et le pass sanitaire en cours de festival. Dans ce journal, nous entendrons la joie et le soulagement des organisateurs. La météo, l'été a toujours du mal à s'imposer, même en ce premier jour d'août, seule exception, le pourtour méditerranéen où le soleil s'impose jusqu'à ce soir, mais avec un vent fort.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Florent Manaudou est donc parvenu à décrocher la médaille d'argent sur 50 mètres nage libre cette nuit aux Jeux Olympiques de Tokyo. On va revenir sur cette prouesse avec vous, Axel May. Bonjour.
Bonjour.
Du service des sports d'Europe 1. On va d'abord entendre Florent Manaudou qui a donc réussi son comeback dans les bassins. Un maître mot dans sa bouche, le plaisir.
Quand je suis revenu à la natation, je l'ai dit, hein, quand il y a deux ans et demi, que je voulais vraiment prendre du plaisir. Je me suis un peu perdu cette année en chemin parce que mes perfs n'étaient pas ouf. Et je fais pas une course incroyable niveau chrono, mais ça prouve que ça suffit, il faut pas trop se poser de questions. C'est cool, c'est vraiment cool, je suis content de ça. Bien sûr, une médaille, c'est bien, mais je suis content de mon voyage personnel, parce que c'était dur, franchement. Et je pense que quand on a de l'expérience, ça sert à ça aussi, de pouvoir se libérer et de se laisser un petit peu faire sur une finale olympique, c'est bien. J'ai pris beaucoup de plaisir, en fait... depuis Rio, dans le hand, dans apprendre la guitare. J'ai fait tellement de choses que j'ai pris du plaisir de partout. Et quand je suis revenu à la natation, si je me suis un peu perdu en chemin, j'ai quand même pris énormément de plaisir. Et ça s'est vu ce soir.
Alors Axel May, ce qui est incroyable avec Florent Manaudou, c'est qu'il avait complètement arrêté la natation après les JO de Rio en 2016, déçu par sa performance. Et il revient ici à Tokyo en décrochant la deuxième place.
Oui. Florent Manaudou était sorti de sa retraite de nageur pour tenter de revivre les émotions, avait-il expliqué, d'une finale olympique. Il a donc pleinement réussi son pari. Alors petit retour en arrière, à Londres d'abord. Finale du 50 mètres, victorieuse sous le regard de sa grande sœur, Laure. 4 ans plus tard, à Rio, finale frustrante, rageante, perdue pour 1/100. Âgé alors de 25 ans, Florent Manaudou décide d'arrêter la natation et de se concentrer sur son autre passion, le handball. En septembre 2016, il fait son apparition avec la réserve du Pays d'Aix, Université Club Handball, évoluant en 4e division. Le bilan au bout de 2 ans, c'est qu'il était devenu un joueur de hand, c'est indéniable, mais un joueur de hand de 4e division, tempéré alors l'ancien champion olympique de la discipline, Jérôme Fernandez. Flo Manaudou, qui aime les challenges, décide de renfiler le maillot de bain en novembre 2018. D'abord discrètement, timidement, puis il annonce son ambition de revenir au jeu. Et cette 3e finale olympique, consécutive, disputée sur 50 mètres nage libre, avait donc la saveur du bonheur. 2e, rendez-vous compte, derrière la nouvelle machine à gagner américaine, Caleb Dressel. Surtout que juste après sa médaille, la petite amie danoise de Florent Manaudou a également décrocher un podium.
Très belle prestation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, et puis une autre médaille est d'ores et déjà assurée pour la France, c'est en escrime.
Oui, en escrime, la finale des fleurettistes. Enzo Lefort, Erwan Lepechou, Julien Mertine et Maxime Potti. Alors il n'y en a que trois qui vont tirer, plus le remplaçant, viseront à partir de 12h50 une nouvelle médaille. Alors elle sera forcément en argent, peut-être en or. Attention, ils vont retrouver les Russes, ces Russes qui les avaient battus en finale il y a 5 ans à Rio. Et puis, parmi les bonnes surprises de la journée, Alexandra Tavernier qui s'est qualifiée au lancer de poids. Et je vous propose d'écouter le cri de la délivrance au moment où elle sait qu'elle a obtenu son billet pour la finale. Voilà, ce cri de la délivrance, toujours impressionnant. En revanche, pour finir avec l'athlétisme, notez que Jimmy Vico a raté sa demi-finale du 100 mètres et il ne disputera donc pas la finale de la discipline reine.
Merci Axel May. Et puisque vous parlez d'athlétisme, on le voit lors des courses, c'est inédit. Il n'y a pas de public dans les gradins. Personne pour encourager, pour pousser les sportifs à se dépasser. Et selon le consultant d'Europe, Jean-Claude Perrin, eh bien, ça a une incidence sur les performances des athlètes. Écoutez.
Je prends le cas du 100 mètres, des sauts en longueur, des sauts en hauteur, des sauts à la perche, où le public est tout de suite au bord de la piste, à rythmer leur foulée, à participer à leur élan. C'est un support, c'est un soutien, c'est quelque chose qui peut apporter un plus, notamment dans les moments de détresse.
Le consultant d'Europe 1 en athlétisme, Jean-Claude Perrin.
Europe 1. Virginie Salmen.
Une mobilisation en hausse contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale en plein cœur de l'été. Plus de 200 000 personnes ont manifesté hier dans toute la France, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. C'est 40 000 de plus que samedi dernier. Une opposition qui prend parfois la forme d'une contestation de la politique du gouvernement. Johanna Chabas était parmi les manifestants hier à Paris pour Europe 1.
Passe sanitaire, régime totalitaire, le passe sanitaire, on n'en veut pas. Ces slogans sont scandés par des familles, des jeunes, des personnes âgées. Un public très varié avec des revendications tout aussi diverses. Certains sont contre le vaccin, d'autres ont des arguments complotistes. Lise, elle, voit le passe sanitaire comme une obligation vaccinale déguisée.
Macron, il n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire. Les décisions qu'on doit prendre par rapport à nos enfants, c'est ses enfants ? Non. C'est les nôtres. C'est inadmissible ce comportement. On ne le laissera pas faire de toute façon. On n'obéira pas, hein. Faut pas croire. Hein.
Une fois la marche finie, les manifestants s'arrêtent devant le ministère de la Santé, où des figures du mouvement contre le pass sanitaire, comme Florian Philippot, prennent la parole. Dans la foule, beaucoup avaient déjà manifesté ces dernières semaines et envisagent de continuer le mouvement, comme Mathilde.
Pour moi, je suis convaincue qu'on arrivera, mais il ne faut pas rester chez soi, il ne faut pas rester devant son canapé, il faut se bouger. Et se bouger plus que jamais. S'il y a encore d'autres samedis, je reviendrai encore d'autres samedis. Tant que je pourrai, tant que mon corps me le permettra, je bougerai.
Message reçu par les organisateurs qui, sous les applaudissements de la foule, appellent à se retrouver la semaine prochaine.
Un reportage à Paris de Johanna Chabas. C'est selon le bilan définitif des forces de l'ordre. Il y a eu 72 interpellations lors de ces manifestations, dont 26 à Paris. Hier à Montpellier, en marge du cortège, un pharmacien a été pris pour cible. Plusieurs dizaines de manifestants l'ont obligé à replier sa tente de dépistage du Covid. À Paris, des violences ont éclaté en fin de journée, place de la Bastille ou encore dans le quartier de Montmartre où des journalistes de l'agence France Presse ont été agressés. Pour le député La République En Marche, Roland Lescure, on va progressivement s'habituer à vivre avec ce pass sanitaire. Il était l'invité de la matinale d'Europe 1. Pour lui, ces protestataires, même s'ils sont un peu plus nombreux chaque week-end, ne représentent pas la majorité des Français.
Là, je pense que les Français aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui ont le poing levé, la plupart d'entre eux, ils votent avec leurs bras en le tendant pour se faire vacciner. Je le répète, on a aujourd'hui des millions de Françaises et de Français qui ont bien compris que c'était la solution, qui souhaitent se faire vacciner, qui souhaitent accélérer la vaccination. Et on a une marge d'individus violents, et ça, vraiment, je le regrette. Enfin, voilà, on avait des manifestants qui étaient là pour casser du flic, puis pour casser du journaliste. Et maintenant, on casse du pharmacien. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est ces minorités agissantes extrêmement marginales. Il faut les sanctionner avec force. Et pour le reste, continuer à expliquer qu'évidemment, la vaccination reste la bonne solution.
Le député La République En Marche, Roland Lescure, invité de Jean-Rémy Baudeau ce matin sur Europe 1. La situation sanitaire est toujours dramatique en Outre-mer, particulièrement à La Réunion et en Martinique, d'où trois malades, une femme de 51 ans et deux hommes de 53 et 61 ans atteints de formes graves du Covid, ont été transférés dans la nuit dans des hôpitaux parisiens. D'autres d'autres transferts pourraient avoir lieu dans les prochains jours. En métropole, la hausse des admissions en soins critiques se poursuit avec 1100 patients admis. Le pic est particulièrement élevé en Occitanie où l'Agence régionale de santé tire la sonnette d'alarme. Les Français expatriés qui souhaitent revenir en France pourront déposer dès cette semaine leur demande pour obtenir le pass sanitaire, annonce le secrétaire d'État chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne au journal du dimanche. En pratique, il suffira d'envoyer une preuve de vaccination avec une pièce d'identité et une preuve de résidence à l'étranger pour recevoir son QR code. Europe 1, 12h40, clap de fin hier du Festival Off d'Avignon, celui des théâtres privés. Une 55e édition particulière marquée par le Covid évidemment, mais aussi par l'instauration du pass sanitaire en plein milieu du festival. Et si le bilan est mitigé, l'équipe du festival ne cache pas sa joie, Angèle Châtelier.
C'est une méthode révolutionnaire, pratique et rapide qui est en phase de test actuellement en Chine. Un vaccin par inhalation ou par pulvérisation nasale qui n'utilise que 20% de la dose normalement nécessaire lors d'une injection intramusculaire, c'est-à-dire une piqûre. Les premiers essais cliniques ont été lancés en septembre 2020 par l'Institut de médecine militaire de l'Université de Wuhan, la ville tristement célèbre pour être le berceau de l'épidémie. Les scientifiques chinois entament maintenant la phase 2 des tests et selon les premiers résultats, la réaction immunitaire à ce vaccin par inhalation est identique à celle d'une injection dans le bras. Si les résultats se confirment, cela permettra d'accélérer considérablement la campagne de vaccination en Chine. 1,6 milliard de doses ont déjà été injectées dans le pays et la Chine espère arriver d'ici la fin de l'année à 65% de sa population vaccinée. Mais le temps presse car pour la première fois, le variant Delta a été détecté dans une quinzaine de villes de Chine, un variant résistant au vaccin chinois et qui devrait nécessiter une troisième injection. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Voilà, on n'était pas à Avignon, mais bien en Chine, à Pékin, où notre correspondant Sébastien Lebelzik nous parlait du vaccin testé par les Chinois, vaccin par inhalation. Le clap de fin du festival d'Avignon Off, c'était donc hier, celui des théâtres privés et un bilan mitigé, une saison un peu particulière, Angèle Châtelier.
Oui, alors effectivement, il y a eu environ 400 spectacles de moins qu'il y a deux ans, un peu plus de 1000, et seulement deux tiers des spectateurs habituels. Mais Nixon Pitakaj, directeur délégué du Festival Off d'Avignon, se félicite surtout d'avoir réussi à organiser l'événement.
Nous avons montré et démontré que comme quoi nous pouvons répondre présent, nous pouvons aussi organiser des spectacles et des festivals sans forcément faire prendre de risques aux spectateurs. Aujourd'hui, on a un retour plutôt positif dans le sens où il y a toujours des spectateurs dans les salles. Bon, c'est pas la foule, je vais pas vous cacher, mais malgré tout, ça reste positif comme bilan pour l'ensemble des compagnies.
Un bilan positif malgré la mise en place le 21 juillet du pass sanitaire obligatoire pour les lieux de culture accueillant plus de 50 personnes. Un coup de massue, nous confie une salariée d'une compagnie qui a dû s'adapter, comme tous les autres professionnels du secteur. En un mois, il y avait tout de même plus de 900 créations à présenter.
Angèle Châtelier du service Culture d'Europe 1.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger, grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
La météo de Valérie Darmon. Alors l'été, même début août, a toujours du mal à s'imposer, Valérie.
Effectivement, avec une seule exception, toujours la même, hein. Tout le pourtour méditerranéen où le soleil s'impose jusqu'à ce soir, mais le vent qui souffle, le vent de nord-ouest à ouest assez sensible, les rafales qui vont atteindre 60 à 80 km/h sur le littoral de la Provence, de la Côte d'Azur, sur les extrémités et le relief corse. Sur le reste de la France, alors là, la journée a débuté sous un ciel encombré, nuageux à très nuageux, nuageux sur le sud-ouest, très nuageux sur le nord, y compris Paris et surtout la façade est, bien chargée entre Lille, Caen, Reims et toute la façade est, donc jusqu'à Lyon, avec de nouveaux orages attendus ici ou là cet après-midi. Donc cette journée qui a débuté sous un ciel chargé et qui va le rester jusqu'à ce soir. L'amélioration se fait sentir par l'Atlantique timidement au fil de l'après-midi et tout particulièrement par le Pays Basque, nettement plus ensoleillé qu'ailleurs, un peu comme le sud Charente. Les températures, elles restent très fraîches pour un début août, digne même d'une mi-septembre et pourtant le 1er août est censé être la journée la plus chaude de l'été. Les maximales vont atteindre 25 à 27 des plaines du Roussillon à la Provence, 28 à 31 sur la Côte d'Azur et la Corse. En revanche, elles vont plafonner entre 20 et 24 sur le reste de l'Hexagone.
Merci Valérie Darmon pour la météo. Il faut protéger les jeunes du Covid, les enfants, les adolescents. C'est l'urgence absolue, selon la politiste Mélanie Heard, qui signe une tribune dans le quotidien Le Monde cette semaine. Elle est notre invitée dans un instant.
Écoutez Le Monde changer
avec Virginie Salmen sur Europe 1.
Les grands oubliés de la stratégie de lutte contre le Covid-19 sont les 15 millions d'enfants et d'adolescents. La quatrième vague va les frapper durement dans les semaines qui viennent. C'est l'alerte que vous lancez dans une tribune au journal Le Monde. Mélanie Heard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et responsable du pôle santé du think tank Terra Nova. Vous êtes inquiète pour les enfants. Pourquoi particulièrement en ce moment ?
La quatrième vague, elle a ceci de particulier que chacun l'a compris, elle tient à la contagiosité accrue du variant qu'on appelle Delta. Elle a une autre particularité, c'est qu'elle survient dans une population qui est partiellement vaccinée. Et on le sait tous, les premiers à avoir été vaccinés, c'est les classes d'âge les plus âgées. Mmh. Et globalement, on a une couverture vaccinale qui est bien moindre chez les mineurs. Pour deux raisons. D'abord parce que le vaccin n'est pas accessible aux moins de 12 ans et d'autre part parce que les 12-17 ans n'ont eu accès à la vaccination qu'il y a en gros un mois, un peu plus. Mmh. Donc du coup, on a une population qui mathématiquement est moins protégée et donc plus attractive pour le virus.
Le virus va s'attaquer à ceux qui ne sont pas encore vaccinés, que sont les enfants.
Voilà, non pas, il faut être très précis, non pas qu'il ait une appétence particulière pour les enfants, c'est pas du tout le cas, mais tout simplement,
il est
attiré là où il a plus de chances de pouvoir se répandre. C'est la pression naturelle qui s'exerce sur lui, fait que il va être attiré par ces populations-là. Donc on a des modélisations qui montrent qu'on pourrait avoir un cas sur deux, une contamination sur deux, qui surviennent chez les mineurs dans quelques semaines, au pic de l'épidémie. Mmh. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est quand même inquiétant et qui ne peut pas être traité comme une information anecdotique.
Effectivement, oui. Selon les projections de l'Institut Pasteur, au pic, donc dès le mois de septembre, dans un scénario médian, on compterait 100 000 nouveaux cas par jour. Et parmi ces 100 000 cas, il y aurait 50 000 enfants et adolescents infectés chaque jour.
C'est ça. C'est exactement ce que les modélisateurs de l'Institut Pasteur ont prévu, ont modélisé. Et ça pose quand même un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à présent dans une manière de voir l'épidémie qui était surtout inquiète pour nos plus âgés, les plus vulnérables, et avec une forme de soulagement, voir qu'il y avait très peu de formes graves du Covid chez les mineurs, chez les enfants, chez les jeunes. Mmh. Dans tous les pays du monde où la quatrième vague se déploie plus vite que chez nous, on observe que les cliniciens, les médecins, les épidémiologistes font part d'une vive inquiétude à l'idée qu'on pourrait avoir des dizaines de milliers de jeunes contaminés chaque jour.
Effectivement, c'est ce qui est nouveau dans votre alerte. Jusque-là, on se disait que, alors, depuis des mois, même un an et demi, on dit que les enfants ne font quasiment pas de formes graves. On ne s'inquiète pas beaucoup pour les enfants. Là, effectivement, avec cette quatrième vague, on voit notamment au Royaume-Uni une évolution très nette. La semaine dernière, les hospitalisations d'enfants ont fait un bond de 24%. C'est ça aussi qui vous inquiète, j'imagine, ce qui se passe dans les pays alentours et qui va forcément mathématiquement arriver chez nous.
Exactement. C'est simple, c'est une question de proportion. Mmh. C'est-à-dire, si vous avez une proportion très faible d'un nombre petit, ça fait très peu de gens. Mais si vous avez une proportion très faible, avec pour dénominateur des dizaines de milliers d'infections, vous êtes tout de même très inquiet. Donc effectivement, la proportion d'hospitalisation, on a en tête à peu près 100 fois moins de risques que pour un adulte chez les mineurs. Mmh. Donc c'est évidemment rassurant, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais malgré tout, sur 50 000 contaminations chaque jour, ça fait quand même des vies bouleversées en nombre conséquent. Oui, et puis, ça c'est pour les hospitalisations, les formes graves, mais il y a un autre sujet qui commence à être très clairement mis sur la table, qui est celui de ce qu'on appelle les Covid longs.
Oui.
Donc ces symptomatologies qui durent plusieurs semaines après l'infection, qu'on ne comprend encore pas très très bien, qui peuvent prendre la forme de fatigue chronique, de difficultés à se concentrer, de difficultés respiratoires, qu'on a bien décrites et bien reconnues chez les adultes, et que maintenant on reconnaît également chez les mineurs. On a notamment des données britanniques sur des formes de ce type chez des mineurs plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la contamination.
Alors précisément sur ce point-là, ce que vous craignez, par exemple, c'est des fatigues sur des mois qui toucheraient les enfants, des troubles de l'attention, de la concentration. C'est ça, les Covid longs chez les enfants, ce serait une sorte d'épidémie de ce type ?
Exactement, c'est une épidémie de ce type qui est déjà décrite dans un certain nombre de pays. Vous avez en Angleterre, en Suisse, des consultations spécialisées Covid long pédiatriques qui sont ouvertes pour essayer d'avancer sur... sur la description de ces cas et sur leur meilleure prise en charge. C'est une inquiétude qui est vive, hein, exprimée par les cliniciens dans ces pays-là. Et on a des chiffres qui sont un peu hésitants, c'est clair, hein, on est encore dans une science en train de se faire, il s'agit absolument pas d'être trop catégorique sur ce sujet, mais enfin on tournerait entre 2 et 10% des infections pédiatriques qui pourraient donner lieu à ce type de symptômes plusieurs mois après l'infection. Donc là encore, hein, tout est affaire de dénominateur, mais avec un dénominateur à 50 000 infections par jour, ben, ça ferait, vous voyez, probablement plusieurs milliers, disons 2500, 3000 enfants qui chaque jour rentreraient dans un processus long qui affecterait leur vie quotidienne et celle de leur famille pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est évidemment des
coûts sanitaires très très lourds,
préoccupants, voilà, et qui doivent motiver. Du coup, ben, y a une chose à faire, hein, c'est prévenir les contaminations chez les mineurs.
Alors justement, quelles mesures est-ce qu'il faut prendre selon vous dès maintenant pour cette rentrée et comment vous voyez se profiler la rentrée scolaire?
Vous savez que les épidémiologistes, les modélisateurs n'aiment pas faire des projections à plusieurs semaines, plusieurs mois. Mmh. Il faut rester prudent. Je crois que la règle, c'est la prévention. Ça veut dire que on anticipe un danger dont on n'est pas certain, mais on peut quand même déjà minimiser le risque qu'il survienne. Et aujourd'hui, on a deux grands groupes d'outils. On a évidemment la vaccination, mais malheureusement, elle ne concerne que les 12-17 ans. Et donc ça, c'est évidemment le premier levier à actionner. Il est clairement mis en avant aujourd'hui par le gouvernement pour cette classe d'âge.
Pour les ados.
Avec une forte promotion de la vaccination auprès d'eux. On a un chiffre qui est quand même positif d'une enquête Santé publique France, l'enquête Covid-Prev, donc un sondage à la fin du mois de juin qui montrait que 68% des parents d'ados étaient prêts à favoriser leur vaccination à ces ados. Et on a aussi plutôt des bons chiffres du côté des ados eux-mêmes. Donc débattre de ce sujet en famille et puis passer à l'acte vite, hein, parce que pour être protégé dans 6 semaines, c'est maintenant qu'il faut agir.
Même si à l'heure où on parle, on rappelle quand même peut-être que le taux de vaccination des ados ne dépasse pas les 10% encore. Hein, donc il y a peut-être des intentions, mais pour l'instant on en est qu'à 10%, c'est assez récent.
Deux doses, 10%, exactement, vous avez raison. Donc il faut vraiment accélérer ce mouvement. Et là-dessus, il y a un sujet de préoccupation pour un professionnel de santé publique, c'est l'équité, la justice sociale, parce qu'on sait que l'accès à la vaccination est, on dit, socialement stratifié, hein, c'est-à-dire que on a quand même globalement moins de chances d'être vacciné si on est d'un milieu moins favorisé. C'est quelque chose qui est vrai dans toute la société, mais c'est peut-être encore plus scandaleux et ça doit motiver encore plus d'énergie pour combattre cette inégalité quand il s'agit des jeunes, des enfants et de leur chance d'accéder à une éducation de qualité à la rentrée. Donc c'est je crois que la problématique justice sociale doit vraiment être dans tous les esprits pour promouvoir la vaccination chez les ados. C'est impératif dès maintenant. Ça veut dire faire des campagnes d'aller vers là où les ados sont, et en particulier dans les milieux les moins favorisés. Beaucoup d'ARS le font déjà, et c'est vraiment quelque chose sur quoi on doit tous se mobiliser pour que ces ados moins favorisés aient les meilleures chances.
Ça veut dire vacciner au collège et au lycée, par exemple, j'imagine, pour vous?
Et puis voilà, donc après, la vaccination qui a été annoncée par le gouvernement dans tous les collèges et dans tous les lycées, c'est un signal extrêmement positif.
Mais un peu tardif.
Un seul parent... voilà, mais probablement un petit peu tardif, hein, puisque c'est quand même vacciné à la rentrée, c'est quand même du coup n'être pas bien protégé jusqu'à la Toussaint. Donc c'est pas la panacée, hein, la vaccination. On le dit depuis le début, hein, en santé publique, on parle de prévention combinée. On peut pas utiliser un seul outil, ça marche pas. Si vous voulez lutter contre le tabagisme et que vous vous contentez d'augmenter le prix des paquets de cigarettes, ça va pas. Il faut aussi faire de la prévention, de l'information, mobiliser les médecins. C'est tout un ensemble. Et donc là, c'est pareil, hein, on peut pas miser que sur la vaccination, certainement pas, et sûrement pas avec les ados. Donc ça veut dire développer aussi les moyens de prévention qu'on connaît, tester, tracer, isoler, on le répète depuis des 18 mois et c'est vraiment une priorité pour l'école. Donc là-dessus, les outils qu'on peut avoir dans une classe pour minimiser donc les chances de transmission, ben c'est le masque, et ça veut dire un effort de pédagogie renouvelé, hein, pour que les enfants remettent le masque à la rentrée vraiment bien sur le nez, sans être trop gênés par ça, mais en étant mobilisés pour le faire bien. Je crois que ça, là, il y a un travail de sensibilisation des familles, des enfants, pour que ça reparte vraiment à la perfection avec un masque bien mis dès le jour de la rentrée. Et puis ensuite, le deuxième outil qu'on a pour prévenir la transmission, c'est l'aération. L'aération des classes, l'aération des cantines, on en a beaucoup parlé. Toute la littérature scientifique montre que dire on ouvre les fenêtres, ça suffit pas. C'est l'injonction ne suffit pas. Il faut doter toute la communauté éducative d'outils pour renforcer cette aération systématique. Qu'est-ce que ça veut dire aérer? Est-ce que ça veut dire ouvrir une fenêtre, deux fenêtres, la fenêtre et la porte, la fenêtre du couloir? Tout ça, c'est un vrai travail qu'il faut faire, hein, mobiliser la communauté pour qu'elle maîtrise de façon intelligente la qualité de l'air dans la classe et éviter la transmission du Covid. C'est vraiment une mobilisation majeure. Oui, et là-dessus, on a la chance d'avoir toute une communauté d'instituteurs, d'enseignants, de scientifiques qui ont démontré l'utilité des capteurs de CO2.
Plus que seulement ouvrir les fenêtres, oui.
Voilà, c'est ça. Le nouveau protocole favorise, recommande même de s'équiper de ces capteurs. Donc, c'est une immense avancée. On est tous très, très contents de cette avancée. Maintenant, il faut probablement accompagner cette injonction d'un effort de pédagogie auprès de la communauté éducative pour que ça se passe vraiment.
Oui.
Un capteur de CO2, c'est un tout petit outil qui permet de savoir la concentration en CO2 dans la classe. Or, on sait que plus il y a de CO2 dans la classe, plus il y a de chances que l'air que vous respirez a été respiré par un autre et donc que le Covid a pu lui aussi passer.
Oui. En Israël, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque débute aujourd'hui. On voit que la Chine s'apprête à ouvrir la vaccination aux enfants dès 3 ans. En France, on n'en est pas encore à cette réflexion-là, mais on entend bien votre alerte. Pour vous, c'est une rentrée renforcée en gestes barrières. Tous ces gestes qu'on connaît et qu'on a peut-être un petit peu délaissés. En tout cas, les enfants sont prioritairement ciblés pour cette rentrée pour vous. Merci beaucoup, Mélanie Heard, docteur en sciences politiques. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle santé du think tank Terra Nova. Merci d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup. Au revoir.
Dans un instant sur Europe 1, le Club Tokyo et le rappel de l'actualité.